Bonjour et bienvenue à Point de vue, votre magazine dédié à l'actualité au pays. On a cinq sujets pour vous aujourd'hui. Les brûlots passent en mode attaque sur la basse Côte-Nord et ailleurs au pays. Les citoyens à la recherche de solutions.
Cette année, on a quand même eu une grande abondance de pluie printanière, ce qui procure des habitats favorables au développement des larves. Donc, c'est ça qui a probablement joué.
Et c'est le mois de la culture autochtone. On passe du temps en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Le réseau de santé et vitalité du Nouveau-Brunswick veut renforcer ses liens avec les communautés des Premières Nations.
C'est une approche beaucoup plus humaine, beaucoup plus axée vers les besoins des Premières Nations. Donc, d'avoir quelqu'un qui comprend notre culture, notre langue, dans le fond, ça, c'est beaucoup plus rassurant.
Les croisiéristes participeront à l'effort environnemental de la ville de Gaspé, au Québec. Une nouvelle taxe leur sera prélevée.
Si à force d'arguments, à force de persévérance et de détermination, on est capable de rentrer des idées de développement durable dans une industrie de croisière, sans faire de greenwashing, ben écoute,
la ville ontarienne de Hawkesbury a du potentiel. 5 épisodes télé lui sont consacrés.
Mousser la participation sociale en passant par le divertissement, ben peut-être que ce serait un bon pas pour passer du potentiel à la réalisation.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour, ici Boris Chassin qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. On lance cette 173e édition dans la région de la Basse-Côte-Nord où des insectes passent en mode attaque. Les brûlots à la recherche de chair fraîche, si bien que si Alfred Hitchcock avait séjourné à tête à la baleine, il aurait sans doute opté pour un scénario intitulé « Les brûlots » plutôt que « The Birds ». Plus vorace que jamais, ces minuscules insectes livrent une véritable offensive sur cette région isolée de la Côte-Nord du Québec. Pourquoi sont-ils si nombreux cette année? Peut-on vraiment s'en débarrasser, les fuir et les attaquer en retour? Et surtout, comment choisissent-ils leurs victimes? Pour éviter de devenir leur prochain festin, la préposée au renseignement entomologique à l'Insectarium de Montréal, Marie-Ève André, nous offre ses conseils.
Si vous vous promenez au village de Tête-à-la-Baleine en Basse-Côte-Nord cet été, vous allez sans doute remarquer le paysage remarquable du golfe du Saint-Laurent. Mais gare à vous! Chaque saison estivale, le village est la proie de petits insectes, bien détestés par ses habitants, les brûlots. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils si nombreux? Marie-Ève André, préposée au renseignement entomologique de l'Insectarium de Montréal, nous explique.
Les brûlots, c'est des très, très petites mouches. On parle d'environ 1 à 3 mm de long. Qui appartiennent à la famille des Ceratopogonidae. Donc, on en a plus d'une centaine d'espèces au Québec. C'est important de ne pas les confondre avec les mouches noires qui appartiennent à une autre famille complètement, dont on pourrait parler si vous avez des questions. Mais les brûlots, c'est vraiment cette famille de mouches.
Ce qui les différencie principalement des mouches noires, c'est leur petite taille. Ils adorent également pondre dans des lieux aquatiques, comme ici. Ça explique en partie pourquoi ils sont si nombreux. Mais bien évidemment, il y a d'autres raisons.
Plusieurs variables météorologiques peuvent faire varier leur abondance et leur activité. Ça peut être la température, l'humidité, les précipitations, le vent aussi. Donc, cette année, on a quand même eu une grande abondance de pluie printanière qui procure des habitats favorables au développement des larves. Parce qu'on le disait tantôt, là, elles sont généralement aquatiques, semi-aquatiques. Donc c'est ça qui a probablement joué. Mais les différentes espèces de brûlots, ils vivent dans des micro-habitats qui sont différents là, d'une espèce à l'autre. On sait aussi qu'étant donné leur très petite taille, elles peuvent être, je dirais, emportées par le vent. Le vent, il peut contribuer à leur dispersion. Fait que, est-ce qui s'est passé ce printemps, là, un épisode de vent qui a comme peut-être déplacé une population aussi, là, tu sais, dans les possibilités.
Et maintenant, la question qui pique notre curiosité. Est-ce vrai que certaines personnes les attirent plus que d'autres?
Dans le cas des brûlots, malheureusement, c'est un peu moins connu que pour les moustiques. Étant donné que les moustiques, ils sont vecteurs en milieu tropical de plusieurs maladies. Donc, c'est comme un phénomène qu'on a beaucoup étudié. On sait que c'est les moustiques, l'odeur de la transpiration, le microbiote de la peau, ça peut jouer le métabolisme. Pour cette partie-là, pour les brûlots, on le sait moins. Ce qu'on sait, par contre, pour les insectes piqueurs et mordeurs, dans le cas du brûlot, c'est vraiment un insecte mordeur, ils sont attirés par le CO2 qu'on dégage. Donc, c'est sûr que plus on est actif, plus on a chaud, ou bien, je dirais, plus on se fait aller pour qu'il s'en aille, plus on dégage du CO2, donc plus on devient attirant. Là, ça c'est un fait qui est quand même plutôt reconnu. C'est juste les femelles, faut savoir là qui mordent mâles et femelles pour la nourriture, je dirais, de tous les jours, sont nectarivores, donc ils vont aller dans les fleurs, se nourrir de nectar, ça leur procure le nectar, c'est sucré, hein, ça leur procure l'énergie pour se déplacer, pour voler, pour s'accoupler. La femelle, après l'accouplement, elle a besoin d'un repas de sang pour avoir les nutriments nécessaires pour la production des œufs et pour la fonte.
Pour se protéger maintenant des morsures de brûlot, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Porter des vêtements longs, ajouter des ventilateurs pour les déplacer restent les meilleurs moyens. Si on veut passer un bel été sans eux, il faut attendre les grandes sécheresses.
La sécheresse, c'est vraiment pas bon pour le développement des larves. On sait qu'ils sont plus actifs aussi quand il fait plus chaud. Et d'ailleurs, le développement des larves a tendance à être plus rapide aussi quand il fait plus chaud. Fait que beaucoup de précipitations avec des températures élevées, pas de vent, ça serait comme un bon cocktail pour se faire mordre un peu plus. Alors que si c'est un peu plus frais, si c'est plus venteux, on risque d'en voir un peu moins. Selon les espèces, on sait qu'il y a des espèces qu'on appelle univoltines, c'est-à-dire qu'il y a une génération par année. Puis il y a d'autres espèces qui ont plusieurs générations à l'intérieur de la même année. Au Québec, on le sait qu'on peut voir des brûlots typiquement entre le mois de mai-juin jusqu'en septembre. Et que si la météo est de notre côté, on peut en voir un petit peu moins. Puis les conditions sont là, on va continuer à en voir un peu plus. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation dans leur biologie, la connaissance des larves aussi. Là, il manque encore beaucoup d'informations. Mais il faut s'appeler que faisant partie de nos écosystèmes naturels, ils remplissent quand même des rôles écologiques. Il y a des espèces qui nourrissent de la matière organique en décomposition, entre dans les cours d'eau qui sont ou les plans d'eau qui sont riches en matière organique. Elles peuvent servir aussi de nourriture à des petits prédateurs. Donc, il faut garder ça en tête.
Bien que les brûlots font le malheur de certaines personnes, ils font certainement le bonheur d'autres espèces. Ici Marie-Ève Dussablon pour l'IGL, à tête à la baleine.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Restons sûrs et au bord de l'eau et au Québec, tiens. Les croisières internationales battent de nouveau leur plein sur le Saint-Laurent. Les touristes américains, québécois et étrangers affluent à bord des navires luxueux battant pavillon 4 et 5 étoiles. Ils sont de plus en plus nombreux à visiter la belle province, que ce soit par l'estuaire du Saint-Laurent ou en accostant le long de la côte gaspésienne, par exemple. On critique souvent ce mode de transport en raison de sa lourde empreinte écologique. Ben, cette année, les croisiéristes participeront à l'effort environnemental de la ville de Gaspé au Québec, destination Gaspé qui leur imposera bientôt des frais de développement durable de 2 $ par passager, ce qui est tout à fait raisonnable, pour soutenir des initiatives vertes au profit de toute la communauté de la pointe gaspésienne. L'organisme a informé ses partenaires de l'imposition de ces frais dès 2027. L'objectif étant bien sûr de conscientiser les compagnies de tours maritimes des effets que leurs opérations ont sur l'environnement. Si cette charge avait été appliquée dès 2024, elle aurait permis à Destination Gaspé de déjà récolter près de 15 000 $. Les précisions de Toby Germain à Gaspé.
L'impact environnemental des croisières et la pression qu'elles imposent aux communautés sont généralement au centre des critiques qui sont faites envers l'industrie. Pour Destination Gaspé, il est crucial de travailler à l'atténuation des impacts négatifs des croisières afin que la communauté puisse en bénéficier au maximum. Pour Pascal Rémillard et son équipe, l'imposition d'un frais de développement durable pour l'industrie, C'est la première initiative à mettre en place pour paver la voie. Selon la directrice, ce n'est rien de moins qu'une petite révolution dans le domaine des croisières.
Il nous servirait à faire la création d'un fonds de développement durable pour Gaspé. Donc, c'est des argents qu'on rassemblerait et que nous, on souhaiterait développer des initiatives porteuses en développement durable, en tourisme, avec ces fonds-là. C'est pas des fonds immenses, mais on doit commencer quelque part. Donc, on commence, si je me trompe pas, par un 2$ par passager. On va pouvoir récolter dès 2027, parce que, bon, l'industrie des croisières, il faut toujours annoncer 2 ans à l'avance, des tarifs, etc.
Destination Gaspé s'active aussi du côté de l'Association des croisières du Saint-Laurent dans le but de créer des partenariats durables avec les autres escales. La directrice relève notamment la création d'un comité tarifaire au sein de la CSL afin d'assurer une meilleure structuration de l'offre tout autour du Saint-Laurent. Galvanisé par le lancement de la saison touristique de Gaspé la semaine dernière, Pascal Rémillard affirme que le frais de développement durable n'est que le début vers des changements structurels plus importants au sein de l'industrie.
Fait que si, à force d'arguments, à force de persévérance et de détermination, on est capable de rentrer des idées de développement durable dans une industrie de croisière, sans faire de greenwashing, ben écoute, sky is the limit, tranquille. On s'en veut rêver ensemble d'une ville un peu plus mobilité durable, d'une ville plus accessible, plus ouverte, plus inclusive. On rêve d'une place publique, d'un leg pour la 500e, d'une industrie des croisières plus ancrée dans notre territoire, dans le sens où il y aurait plus de retombées significatives.
Dès 2027, les croisiéristes vont donc participer à l'effort environnemental de Gaspé à hauteur de 2$ par personne. C'était Toby Germain à Gaspé pour une initiative de journalisme local.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
On entre dans les terres du Nouveau-Brunswick pour se rendre à Saint-Quentin où le réseau Santé et Vitalité travaille à renforcer ses liens avec les communautés des Premières Nations. Le réseau Santé et Vitalité a souligné le 20 juin son partenariat avec les Premières Nations lors d'une cérémonie à l'hôpital régional de Campbellton. L'événement tenu pendant le mois de l'histoire autochtone a rassemblé de nombreux dignitaires. Ce partenariat repose sur le principe de l'Etchakmoump, soit du double regard qui valorise, dit-on, l'harmonie entre savoir traditionnel, autochtone et médecine contemporaine. Des espaces adaptés aux clientèles autochtones ont été aménagés. Du personnel hospitalier bénéficie maintenant de formations continues en compétences culturelles pour mieux accompagner les patients autochtones. Par ailleurs, 2 nouveaux intervenants pivots ont été engagés dans les zones de Restigouche et Beau Séjour pour renforcer ce lien. Le réseau, soutenu également par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, continue d'élargir son offre de services, notamment en matière de santé mentale et de soins spécialisés. Le modèle holistique capteur de rêves, centré sur la famille et la culture, illustre d'ailleurs cette volonté de soins respectueux et enracinés dans la communauté. Les précisions de Sébastien Ladouceur, à Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick.
Le 20 juin 2025, le réseau de santé Vitalité a souligné son partenariat croissant avec les Premières Nations lors d'une cérémonie à l'hôpital régional de Campbellton. Jenny Toussaint, vice-présidente de la logistique clinique, nous parle de cette collaboration.
Le rôle et responsabilité, dans le fond, c'est d'identifier les Premières Nations qui nous passionnent dans nos établissements, faire la trajectoire de soins avec eux autres jusqu'au retour dans la communauté pour s'assurer qu'on répond à le besoin physique, mental et spirituel tout le long du cheminement patient jusqu'au retour. Parce que les Premières Nations ont des besoins particuliers, ainsi que dans leur communauté, il y a aussi des personnels, des professionnels de la santé auxquels nous devons vraiment consulter pour s'assurer qu'on suit les désirs du patient, puis qu'on s'assure que les soins sont vraiment culturellement adaptés à nos patients. C'est très nouveau, ça fait quelques mois qu'on est à Moncton. Moncton vient tout juste de commencer, alors c'est quand même assez récent qu'on a ajouté ces personnes-là au sein du réseau. C'est pas nouveau au Nouveau-Brunswick, puis dans le fond, c'est de s'assurer qu'on répond aux besoins de la clientèle des Premières Nations, puis qu'on inclut vraiment leurs désirs et leurs besoins là, au sein du réseau, dans la planification stratégique autant que dans l'opérationnel.
Keith Chiasson, ministère des Affaires autochtones, félicite Vitalité pour l'approche dans ce dossier, une approche qui qualifie d'humaine.
Vitalité, aujourd'hui, annonçait l'embauche de 2 intervenants pour les patients de Premières Nations.
Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important là, pour les autres santé et aussi les Premières Nations, dans le fond, qui se tournent vers nos hôpitaux pour des services. Donc, on était ici, dans le fond, pour souligner l'embauche de ces deux nouveaux intervenants-là et aussi, tu sais, féliciter et célébrer, dans le fond, Vitalité là, pour la nouvelle approche là, qu'ils prennent là, pour améliorer les services pour les Premières Nations. Ce que ça va apporter, dans le fond, c'est une approche beaucoup plus humaine, beaucoup plus axée vers les besoins des Premières Nations. Tu sais, quand on se tourne vers le réseau de santé pour des services, soit les soins primaires, des services, dans le fond, pour la santé mentale, etc., tu sais, on sent anxieux, on est beaucoup plus vulnérable. Donc, d'avoir quelqu'un qui comprend notre culture, notre langue, dans le fond, ça, c'est beaucoup plus rassurant. Puis aussi, dans le fond, ça facilite un peu, dans le fond, le cheminement que le patient doit faire là, quand il est dans le réseau de santé pour les soins.
Pour le ministre Gilles Lepage, il s'agit d'une excellente nouvelle qui favorise la réconciliation.
Oui, excellente nouvelle. Et encore là, on voit une énorme reconnaissance et tout un processus de réconciliation avec les Premières Nations et le réseau de santé Vitalité qui est impliqué. C'est fabuleux. Ben, c'était très émotionnel, très personnel aussi, avec certains orateurs. Mais je pense que ça démontre encore un petit peu le développement qu'on a encore à faire comme société pour toute la question de la réconciliation et de croire aussi à peut-être de marier l'historique avec la science pour essayer de s'assurer que tout le monde soit bien dans sa peau.
Sébastien Ladouceur, IGL.
Écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca.
Vous savez que le mois de juin est donc officiellement celui du mois national de l'histoire autochtone. Nos journalistes le couvrent, bien sûr, dont Pierre Gill qui s'est demandé si les choses avaient changé pour le mieux 5 ans après le décès de Joyce Echaquan au CI3S de Lanaudière à Joliette. Joyce Echaquan est cette jeune mère de famille de 37 ans qui avait, tout juste avant de mourir, sur son lit d'hôpital, réclamant de l'aide, enregistré un Facebook Live où l'on entendait être l'objet de propos disgracieux et raciste. Le coroner chargé de l'enquête avait conclu qu'il existait du racisme systémique dans les institutions québécoises à l'égard des Autochtones. La mort de Joyce Echaquan en 2020 avait marqué tout le Québec, tout le pays, fait du bruit partout dans le monde. Sa mort qui a révélé au grand jour l'étendue des attitudes discriminatoires dont les peuples autochtones sont la cible. Un drame qui a définitivement marqué un tournant, on l'espère, dans les relations entre les membres de la nation Atikamekw de Manawan et le milieu de la santé de Joliette et des environs. Un an après son décès, Guy Nikwe, un Atimatek de Manawan, a été nommé adjoint à la PDG du CI3S de Lanaudière, son mandat étant de renverser la situation. Où en est-on aujourd'hui à Joliette et pour l'ensemble des Premières Nations au Québec? Ici, un extrait du reportage de Pierre Gill.
On travaille fort, on a mis des projets en place, puis on continue d'en faire. Puis nous, on intervient beaucoup avec les membres de la communauté qui viennent à l'hôpital, justement de s'assurer que tout va bien. On a 2 agents de la sécurité culturelle. Et puis, en moyenne par mois, on fait 300 interventions par mois pour les usagers qui passent pour nous chercher des services dans différents secteurs à l'hôpital de Joliette.
Le reportage complet de Pierre Gill vous attend sur fréquenceinfo.ca. Toujours dans les maritimes direction Miramichi au Nouveau-Brunswick, quelques dizaines de personnes se sont déplacées au carrefour Beau Soleil vendredi après-midi pour assister aux célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones. La cérémonie était présidée par l'aîné Georges Paul, qui a organisé plusieurs événements de ce genre dans la province. Le drapeau Mi'kmaq a été hissé dans l'agora extérieure. Le reportage de Vincent Lavoie.
Quelques dizaines de personnes se sont conviées dans l'agora extérieure du Carrefour Beau-Soleil pour que soit hissé le drapeau Mi'kmaq pour souligner la Journée nationale des Autochtones. La cérémonie était présidée par l'aîné Mi'kmaq Georges Paul, figure éminente de la région impliquée dans plusieurs événements liés à la vérité et à la réconciliation.
I think this is starting to catch on in a lot of schools and they're starting to respond to the reconciliation process and have more a welcoming open door for the indigenous people in in the local schools and public schools across the provinces. And I think, to me, that's an honor. And,
au fil des années, il ressent un certain regain d'intérêt pour la culture autochtone dans les écoles. Cette reconnaissance est un honneur pour lui et il ne peut espérer mieux que la levée du drapeau Mi'kmaq, un respect pour la nation, selon lui. Le Carrefour communautaire Beausoleil a également profité de l'occasion pour inviter le public au vernissage de l'artiste Pauline Young. L'exposition de ses œuvres durera tout l'été dans la galerie arcadienne.
My life before art was all trauma, right? A lot of trauma, because I had the 60s scoop, you know, I had my father's death, my son's death, and I had all kinds of other negative things. But I think art is teaching me how to feel love again, away from the trauma that I experienced when I was younger. I'm feeling it.
Elle explique son parcours artistique comme un parcours de guérison pour les traumatismes passés, comme le décès de membres de sa famille proche. Elle était également visiblement émue lorsqu'elle a jeté un œil au mur garni de la galerie. Le public peut également contempler un exemplaire de la pièce commémorative de la ville de Miramichi pour le 30e anniversaire de la ville, mais aussi du bicentenaire des grands feux du fleuve Miramichi, dont Pauline Young a conçu l'œuvre d'art à l'envers de la pièce. Quant à la Journée nationale des peuples autochtones, George Paul espère que cette sensibilisation au traumatisme du passé permettra à ses confrères un avenir meilleur.
I've done a few of them here and there in different communities. I've been asked to do some. And I hope it continues on for as long as people have it in their heart, you know, to share and have indigenous communities as part of the society and just as one with everyone. Yeah.
Un avenir où les peuples autochtones sont pleinement intégrés à la société canadienne. Ici Vincent Lavoie pour IJL à Miramichi.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
On se rend en terminant à Cornwall, en Ontario, où Guillermo Tolosa, notre journaliste, a poussé comme des dizaines de milliers de Québécois et d'Ontariens, de Canadiens, un soupir de soulagement lorsque la petite Claire Belle, 4 ans, a été retrouvée saine et sauve. La semaine dernière, après 4 jours de recherche, elle a d'ailleurs été retrouvée, nous dit Guillermo, non loin de la station GoFM pour laquelle il travaille. Guillermo qui a couvert, bien sûr, cette nouvelle, mais aussi une autre plus légère, qui porte sur un documentaire dédié à une ville ontarienne proche de la frontière du Québec et qui est l'objet d'une série télé. Elle est intitulée potentiellement Hawkesbury. Oui, si vous nous êtes fidèles, ça vous dit quelque chose parce que Gabriel Poulain nous en a brièvement parlé aussi la semaine dernière. Cette fois, Guillermo se permet de prendre un peu plus de temps pour en parler avec le réalisateur Cédric Bertrand, enfin l'un des deux, qui raconte la relation amour-haine qu'il entretient avec la ville dans laquelle il a lui-même grandi et qui sera diffusée donc sous peu, cette série, sur les ondes d'une chaîne télé privée. Dans la série documentaire potentiellement Hawkesbury, Cédric Bertrand rend un bel hommage avec une dose d'humour et de franchise à la ville donc qu'il a vu grandir. Majoritairement francophone, la ville de Hawkesbury avait tout le potentiel pour devenir une des villes les plus importantes de l'Est ontarien, ceci grâce entre autres à son emplacement stratégique. Mais depuis la fin des années 80, Hawkesbury a perdu de son lustre au fil des ans. Guillermo Tolosa en parle avec le réalisateur Cédric Bertrand.
Potentiellement, Hawkesbury est une série de 5 épisodes qui explore l'histoire de la ville, les gens qui l'habitent et la direction qu'elle prend.
On peut s'attendre à passer de l'histoire de Hawkesbury à à la réalité industrielle du passé et du présent. Et ensuite, on explore ce que c'est aujourd'hui. On est rendu où dans l'immigration? Qui habite ici? Le fait que c'est extrêmement francophone. Et tout ça dans le but de figurer c'est quoi la vraie source de potentiel de Hawkesbury. Et on fait ça en passant par le divertissement, le journalisme léger. C'est important que ça reste que ça reste plaisant à écouter puis que ça divertisse. Ça, c'était vraiment le but premier. Je fais, dans le premier épisode, j'ai une petite carte animée où je montre à quel point Hawkesbury est bien situé. On fait pas juste le dire, on le montre carrément sur une carte. Il y a du trafic ici, là. C'est vraiment un point central qui relie énormément de routes. On est quand même dans le vieux Canada, si on veut, ici aussi, là. On est dans ce bassin-là de la rivière des Outaouais, pas loin du fleuve Saint-Laurent, pas loin du corridor Québec-Windsor, fait que oui, c'est traversé au bout. C'est effectivement un point clé culturel et géographiquement parlant. Cet atout-là vient me piquer plus que beaucoup d'autres parce que c'est, on dirait qu'on n'a vraiment pas de raison de pas être énorme. Tu sais, oui, OK, c'est vrai, on n'a plus beaucoup de terrain, là, mais mettons qu'on met ça de côté, là. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici, là. C'est servi sur un plateau d'argent, là.
La fermeture de l'usine de la papetière Canadian International Paper au début des années 80 a sans doute été un point tournant qui a changé le visage de Hawkesbury.
Moi, j'ai vu le changement, tu sais, dans mon enfance à un moment donné, surtout au niveau du centre-ville. Mais ce serait pas juste de blâmer la fermeture de la CIP pour ça entièrement. Tu sais, il y en a d'autres industries qui ont fermé premièrement, puis comme plusieurs communautés. Ben là, on a soudainement eu une autoroute qui s'est approchée. Après ça, une autre avec la 417, mais tu sais, juste la 17, la transcanadienne, elle n'existait pas là avant. C'était la rue principale qui connectait les métropoles. Fait qu'une fois que tu enlèves ça et que tu construis un autre mall à côté, ben c'est sûr que ça aussi, ça contribue. Il y a plusieurs facteurs. Puis là, je suis pas en train de chialer contre quoi que ce soit. La CIP, il y a quelque chose de romantique. C'était une de nos plus vieilles industries. Ça a fermé, etc. Fait qu'on aime en parler, mais c'est plus compliqué que ça.
Cédric a lui-même quitté Hawkesbury pour aller s'installer à Montréal pendant plusieurs années.
Je crois pas que les jeunes partent pour ne pas revenir. Du moins, je pense pas que c'est automatique. Mais une fois que t'es parti, puis que le courant de la vie t'emporte, ben les chances qui te ramènent ici, je crois que ça dépend des opportunités.
Selon Cédric, l'un des plus gros problèmes de Hawkesbury est le désintérêt de ses citoyens.
Je pense que la seconde qu'on va arrêter de se dire « ça donne à rien, les choses changeront jamais », puis qu'on décide de participer, je pense que c'est ça le plus gros problème, juste la participation. Avoir envie de participer, ce serait de donner envie aux gens de se mêler de ce qui se passe à l'Hôtel de Ville.
Plusieurs projets attendent déjà Cédric Bertrand, qui pourrait encore impliquer la ville de Hawkesbury.
J'ai ouï dire qu'il y avait la possibilité d'un documentaire intéressant l'année prochaine. Reste à voir si tout ça débloque. J'aimerais bien ça trouver une autre façon de créer du contenu original sur Hawkesbury sans nécessairement tomber dans la suite, mais quelque chose d'autre. Fait que si jamais vous me croisez, ben n'hésitez pas à me faire part de vos idées. Sait-on jamais, ils vont peut-être se retrouver à l'écran dans un an ou deux.
C'était Guillermo Tolosa à Castleman pour IGL.
Voilà, c'est tout pour nous. Une demi-heure passe si vite. Merci à nos journalistes Guillermo Tolosa, Vincent Lavoie, Pierre Guille, Sébastien Ladouceur, Marie-Ève Dussablon, Toby Germain, Daniel Aucoin. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Merci à Julia Chénu, notre rédactrice nationale, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation qui vous remercie d'être là. Vous et votre station de radio communautaire ou universitaire, portez-vous bien. Ciao.
écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca.